Mardi Politique, en partenariat avec Libération et France 24. Florent Guignard.
Bonjour, bienvenue dans Mardi Politique. Marie-Lise Lebranchu, la ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique, est notre invitée. Bonsoir Marie-Lise Lebranchu. À l'heure de la contestation contre la réforme du collège, l'école une fois encore enflamme le débat politique français. Nous allons en parler dans quelques minutes. Et pour vous interroger, à mes côtés, Roselyne Fèvre de France 24 et Laure Breton de Libération. Bataille de chiffres autour de la réforme du collège. C'était une journée de grève et de manifestation. Combien de profs grévistes aujourd'hui en France? Plus de 50% selon les syndicats, moitié moins selon le gouvernement. Qui dit vrai? Cette mobilisation, Marie-Lise Lebranchu, est-ce qu'elle est bien de nature, tout simplement, à pousser le gouvernement à revoir sa copie?
Honnêtement, je ne crois pas que ce soit le cas. Je suis même persuadée. Même si, effectivement, moi, j'ai entendu 27,6% de grévistes. De toute façon, Najat avait raison. Pardonnez-moi de l'appeler par son prénom. Valo Belkacem avait raison de dire chaque gréviste compte. À partir du moment où la réforme appelle une grève, le gouvernement et la ministre en particulier doivent forcément regarder comment répondre à ce malaise, parce qu'il y en a. La réforme, elle est de qualité. Moi, je la défends bec et ongles, parce que
tout le gouvernement la défend bec et ongles. Oui, la mobilisation est assez remarquable.
Je peux vous dire que depuis longtemps, parce que y compris il y a très longtemps, quand j'avais des enfants à l'école, je me permets de faire référence à ce qui m'est non pas personnel, mais aussi en tant que maire d'une commune, j'avais repérer la façon dont un certain nombre d'enfants choisissaient les collèges. Ça m'a toujours profondément choquée qu'on utilise la première langue pour choisir un collège et éviter de se soumettre à la carte scolaire. Ça m'a toujours profondément choquée, ça me choque encore. Et je trouve formidable, en revanche, qu'on dise première langue en sixième, deuxième langue en cinquième. Ça, c'est une réelle avancée. Je pense que dans une quinzaine d'années, si on en a les moyens, et j'espère qu'on continuera à accorder autant de moyens à l'éducation nationale que ce qu'on fait, soit les 60 000 postes seront au rendez-vous, eh bien, on pourra encore avancer la deuxième langue à la sixième. Ce que je trouve formidable aussi, c'est la première langue au CP. Je pense qu'aujourd'hui, pour ces enfants-là, comme pour tous les enfants d'Europe et du monde, c'est le monde leur jardin. Donc c'est extrêmement important cette approche qui soit, non pas j'ai entendu nivellement vers le bas, enfin je trouve ça terrifiant. Je pense qu'on donne une chance à tous les enfants de France quand on fait du monde leur jardin.
Alors précisément, on va entendre, parmi toutes les réactions d'opposition, en particulier à droite, on va entendre celle de Nathalie Kosciusko-Morizet, c'est la numéro 2 de l'UMP. Elle était l'invitée ce matin de France Info. Et au fond, ce qu'elle dit, c'est que la gauche retombe dans ses vieux travers égalitaristes. On nivelle par le bas précisément.
Derrière cette réforme, il y a une philosophie de l'éducation qui n'est pas la nôtre et qui, je crois d'ailleurs, n'est pas celle de la majorité des Français, y compris la majorité des profs. Quand la ministre de l'Éducation dit « le problème c'est l'élitisme, nous sommes contre l'élitisme », moi je crois que ça ne veut rien dire.
Parce qu'on dit
chaque pays a besoin d'une élite dans tous les secteurs. Vous avez une élite dans le foot, vous avez une élite. Parce que l'idée qu'il n'y ait pas d'élite, vous voyez, l'espèce de grand nivellement, ça n'existe pas.
Voilà Nathalie Kosciusko-Morizet, numéro 2 de l'UMP. Question de Roselyne Fèvre de France 24.
Oui, on a le sentiment que ça dépasse la réforme, puisque quand on entend beaucoup de profs qui manifestaient, beaucoup parlaient encore de manque de moyens. Mais sur ce que disait Clément, sur Florent il y a quelques instants, on a bien le sentiment qu'il y a une querelle idéologique, celle de la droite et de la gauche. Et en gros, la droite se voudrait élitiste et la gauche égalitaire. Est-ce que vous adhérez à ça? Est-ce que vous comprenez qu'il y a une espèce de fracture idéologique, une fracture intellectuelle sur ce
fracture, c'est peut-être, je dis clivage politique. Moi, je crois aux élites et aux besoins d'élites. Ça ne me choque pas qu'il y ait Normal Sup, ça ne me choque pas qu'il y ait des filières d'excellence, ça ne me choque pas qu'il y ait Polytechnique, ça ne me choque pas qu'il y ait des concours pour la médecine. Je pense qu'effectivement, il y a des choses difficiles et tout le monde ne deviendra pas normalien, polytechnicien, médecin. Et c'est comme ça. Et franchement, j'accepte. En revanche, ce que je n'accepte pas, et ce que peut-être la droite a tendance à accepter, c'est que l'élite, on la provoque, entre guillemets, dès le départ. C'est-à-dire qu'au fond, le fait qu'on puisse avoir des écoles choisies, qu'on puisse choisir son école, en fonction de son enfant. Je dis, faisons attention. Moi, j'ai connu les associations de parents d'élèves. Je connais beaucoup d'associations de parents de mon enfant que je veux qui réussissent et tant pis pour les autres. C'est pourquoi j'ai salué la FCPE de revenir justement à cette notion d'association de parents d'élèves qui veut tirer tout le monde vers le haut. Après, tout le monde n'aura pas le même parcours. C'est évident et c'est certain. Mais en revanche, allons le plus haut possible avec tous les enfants de France. Ça, c'est quand même
en supprimant l'esprit classique, quand même. On a le sentiment qu'on efface un peu l'esprit classique.
Je ne pense pas qu'on efface l'esprit classique. D'abord, il faut savoir que dans notre histoire, l'esprit classique avait disparu, en particulier de tous les collèges ruraux, les collèges de banlieue. On avait à l'époque appelé ça des cours complémentaires. Les séries s'appelaient M'. Et vous ne pouvez pas vous en souvenir peut-être parce que vous êtes trop jeune. Il y avait une seule langue et des maths. Ça a été comme ça. Et puis, petit à petit, on a remis l'esprit classique, effectivement, et on le garde.
L'esprit classique, c'est notamment l'enseignement du latin.
Le latin, le grec, et puis il y a plusieurs façons de l'aborder. Il y a effectivement le latin, le grec, les gros gaffiots et les balades avec les grands dictionnaires, et puis il y a aussi l'étude des textes anciens. Je parle de la naissance de la démocratie, c'est important de savoir comment ça s'est fabriqué. C'est pas forcément des cours de latin, c'est aussi ces marges de manœuvre, permettez-moi l'horrible expression, qu'on laisse aux enseignants pour justement approcher, y compris ce qu'était l'Antiquité, ce qu'ont été nos grands anciens et comment aujourd'hui on existe encore parce que nous avons de lointains héritages. Je crois que c'est important de le dire comme ça. Il faut pas se battre sur une heure de latin. Il faut pas oublier ceux qui ont appris par cœur les pages roses parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Je pense que justement ces groupes-là, c'est important. Et quand vous avez dit le mot moyen, effectivement, peut-être que l'inquiétude des enseignants, c'est comment je vais réussir à faire ces groupes pluridisciplinaires, y compris sur les grands textes anciens.
Marie-Lise Lebranchu, une question de Laure Breton de Libération.
Pour rebondir sur la question de Roselyne Febvre, vous parlez aussi des moyens. Où est-ce qu'on en est de la création? La droite attaque aussi sur cet angle-là. Le candidat Hollande, puis le président Hollande, avait promis la création de 60 000 postes. Où est-ce qu'on en est? La droite dit on n'en a pas créé plus de 10 000.
Alors, c'est pas vrai, parce que pour moi qui suis la ministre de la
Fonction... Et pour prolonger la question, Jean-Luc Mélenchon dit que ceux qu'on a créés, ce sont des précaires qui, dans quelques années, vont se retrouver avec rien.
Il oublie quelque chose, Jean-Luc Mélenchon, que n'oublie pas la droite, parce qu'elle sait par cœur, c'est qu'on n'avait plus de formation de profs. Donc,
on a choisi
de former à nouveau les professeurs, les enseignants. Ça veut dire que pendant 2 ans, effectivement, quand vous ouvrez des postes au concours, eh bien, il faut avoir ce temps de formation. Je dis toujours, on ne les trouve pas comme ça dans la rue qui attendent désespérément un poste. Donc, effectivement, c'est l'entrée dans les formations qu'on doit regarder. Et pour moi, qui, justement, ai à gérer l'ensemble de la fonction publique, je peux vous dire que la création des 60 000 postes, puisqu'on a décidé de faire zéro création, c'est-à-dire de rester au total des fonctionnaires que nous avions, je parle de fonctionnaires de l'État, en arrivant, c'est un gros problème. Et qu'il faut
zéro
continuer.
Création, toutes fonctions publiques confondues.
Toutes fonctions publiques confondues.
Donc il faut les trouver.
Donc des suppressions de postes dans les ministères non prioritaires.
Nous faisons ces créations, et j'ajoute ce qu'on oublie toujours, quand on crée une école maternelle à nouveau, quand on ouvre une classe à nouveau, et on l'a fait beaucoup, en milieu suburbain, en milieu rural, en milieu urbain, partout, eh bien, on crée aussi une poste d'assistante qu'on appelle ATSEM, dans une collectivité territoriale, qui n'est pas comptabilisée dans les nombres de postes. Donc, je peux vous dire qu'en 2017, au moment de la campagne présidentielle, je pense même qu'on aura dépassé les 60 000 postes quand on comptera l'ensemble de la fonction publique destinée à ce que les enfants aient plus de chances.
Alors comment, Marie-Lise Lebranchu, comprenez-vous la mobilisation des enseignants contre cette réforme, qui est une réforme, vous l'avez dit, clivante, qui est estampillée de gauche, les profs sont majoritairement de gauche, c'est votre électorat, comment vous comprenez et vous expliquez leur opposition?
D'abord, je ne dis jamais les profs sont majoritairement de gauche parce que c'est leur choix et je n'en sais rien. Mais, effectivement.
Les sondages, les enquêtes le disent.
Je pense qu'à l'intérieur du mouvement, ce que moi j'entends, à la fois ce que j'entends, parce que j'ai le Conseil supérieur de la fonction publique qui m'éclaire aussi, peut-être, j'ai cette chance, des profs qui disent ça va pas assez vite, on n'a pas assez de moyens, y compris en salle des profs, on n'aura pas assez de moyens d'accompagnement. La notion des moyens continue à être une forme d'anxiété. Comment on va m'accompagner dans cette gestion, par exemple, des heures de... J'ai envie de dire, de liberté pédagogique qu'on attend depuis tellement longtemps dans les collèges. On les a enfin, mais c'est pas si simple à organiser. Faut une bonne équipe pédagogique, faut un accompagnement. Bref, il y a une forme d'inquiétude. Il y a le fait que les 60 000 postes, ça leur paraît pas de trop, compte tenu de la démographie, et que il y a aussi, et il faut le dire, cette impression terrible pour les professeurs que le nombre d'enfants en grande difficulté est toujours trop important. Et ils ont besoin de nous, ils ont besoin d'être accompagnés, et je pense que ce qui est important, c'est que le décret de la réforme se fasse, mais qu'il y ait dans l'accompagnement des enseignants un gros travail qui soit fait.
Quand il y a grève, parce que pour l'instant, ils disent qu'on n'a pas été concerté.
Quand il y a grève, c'est qu'il n'y a pas assez peut-être de dialogue social. La ministre le disait ce matin, il faut que je regarde pourquoi, effectivement, un certain nombre de professeurs demandent plus d'accompagnement à la réforme. Et je pense que la détermination qui est la sienne et celle de tout le gouvernement et la mienne en tant que ministre de la fonction publique, c'est qu'effectivement on trouve les moyens d'accompagner. C'est pas si simple parce que être prof, je le rappelle aussi, c'est pas simple.
Laure Breton, Libération.
Justement, on a eu un peu le sentiment effectivement que Najat Vallaud-Belkacem ce matin était apaisante, se voulait apaisante, et elle a aussi demandé une réflexion nationale sur l'enseignement du latin et des lettres classiques qui doit rendre ses conclusions en octobre ou en novembre.
Oui, parce qu'il y a deux choses. Il y a le collège et les programmes.
Et les programmes.
Vous avez raison.
Et de l'autre côté, on a le Premier ministre qui dit ce matin, là, en milieu de journée, le décret sur cette réforme arrivera le plus vite possible. Voilà, donc en fait, on a un peu l'impression.
Il y a deux choses. On a la réforme du collège, c'est-à-dire la langue en sixième, les deux langues en cinquième, et cette marge de liberté pédagogique pour s'adapter aux classes, ça, c'est décidé. Et puis vous avez à côté, dans les programmes, la question du latin qui a été posée, la question
des enseignements pluridisciplinaires,
de ce qu'est un enseignement pluridisciplinaire, comment on peut le construire, ça c'est pas arrêté. D'accord. Donc il y a une concertation là-dessus qui est nécessaire. D'ailleurs, nous sommes en pleine concertation sur ces sujets. Donc je pense qu'effectivement il y a un télescopage entre les deux, mais dans leur grande majorité, je pense que le besoin de réformer le collège, il était présent chez nos enseignants, chez les parents d'élèves largement. Chez nous, qui sommes responsables de l'action publique, le constat de l'échec était quand même trop violent pour ne pas répondre ou ne pas tenter de répondre, parce que nous faisons partie de ceux qui restent modestes, j'espère. Donc on a vraiment là un choc entre deux décrets, la réforme du collège et l'accompagnement sur les programmes. Donc la concertation et puis l'accompagnement sur le pluridisciplinaire, comment on le bâtit.
Mais alors une question de méthode justement, puisque cette réforme elle va se faire par décret, pourquoi ne pas avoir fait le choix de la voie législative, du Parlement, alors, où s'exprime généralement le débat plutôt que dans la rue là aujourd'hui?
J'ai l'impression moi que le temps nous échappe. On fait beaucoup de politique fiction avec les médias, mais on oublie le passé récent. Dans la grande discussion sur la refondation de l'école conduite par Vincent Peillon, on a passé des heures à parler du collège, à parler du primaire, du collège et des lycées, de tout bien évidemment, mais du collège et en particulier du fait qu'on ne pouvait pas continuer à avoir un collège qui avait été l'oublié de l'histoire. C'est-à-dire qu'on savait réformer le primaire, on était assez satisfait globalement de ce qui était proposé au lycée, mais entre les deux, il y avait une sorte de 4 ans de sas qui n'était pas satisfaisant. Et je le dis d'autant plus facilement que, m'occupant aujourd'hui de l'apprentissage dans la fonction publique, je vois bien que dès la 4e, on a des enfants qui seraient intéressés par de l'apprentissage, non pas par choix, mais par défaut, ce qui est forcément un échec collectif, alors que l'apprentissage doit être plutôt une voie de choix. Donc, on a discuté de ça au Parlement. Comment se fait-il que ça n'a alerté personne? J'avais cru comprendre, moi en tout cas, que la réforme du collège était actée.
Vous sous-entendez que la droite se réveille un peu tard et cherche à cliver sur un sujet qui est un des derniers sujets qui lui reste
pour cliver avec la gauche. J'ai tendance à pas taper sur l'opposition parce qu'elle est nécessaire, mais sur nous tous, ne pourrions-nous pas bien regarder le présent et y compris le passé immédiat? C'est-à-dire cette refondation de l'école, cette belle loi dont on ne parle pas, dont on a si peu parlé, plutôt que de se projeter dans la question des programmes qui n'est pas encore totalement terminée.
Vous parliez du passé immédiat, mais si on parlait du passé tout court, et peut-être voir que dans le fond l'école républicaine génère et crée des inégalités. Dans les classements PISA, la France est vraiment presque au fond du trou. Est-ce qu'il ne fallait pas faire, plutôt que faire des petites réformettes comme ça, au gré des nouveaux gouvernements, faire un inventaire de ce qui n'a pas marché et de ce qui pourrait marcher, et remettre peut-être tout à plat? Alors c'est bien, c'est vrai que c'est difficile, l'éducation nationale, on bouge une gomme, on a une grève, mais peut-être faire un vrai travail une bonne fois pour toutes.
Ce travail, si vous reprenez tous les débats de la Loire aux fondations conduites, je rappelle, par Vincent Peillon, qui avait travaillé des années avant d'être ministre sur les contenus des...
Tout ça pour pondre une réforme des rythmes scolaires.
Ça a été effectivement, vous avez raison de le citer, totalement occulté par les rythmes scolaires, sur lesquels nous étions d'ailleurs tous d'accord, y compris les ministres de droite antérieurs. Donc, je pense qu'on n'a pas... Si j'ai un reproche à nous faire, parce qu'il faut toujours regarder ce qu'on se reproche dans un gouvernement, c'est peut-être de ne pas avoir assez porté, avec Vincent Peillon, la refondation de l'école. Cette grande loi qui, justement, à la fois... en rendant les postes, en redonnant de la place aux maternelles, l'accompagnement sur les cycles du primaire, rappelons-nous, c'est quand même quelque chose d'important et qui fonctionne bien aujourd'hui, devait forcément déboucher sur
la réécriture du collège. Mais la faute pouvait englober la droite aussi, hein, depuis des décennies, les réformes.
Honnêtement, qui n'ont pas été faites. On touche à la langue étrangère, bien évidemment. On touche à la langue française, puisqu'on en a beaucoup parlé dans les cycles du primaire, sur la maîtrise du français et de la base du calcul, puisque déjà, si on sait ça dans la vie, on est armé pour comprendre le reste. Mais on l'a fait par étapes, et l'étape de la refondation du collège, c'était bien... de la refondation de l'école, pardon, c'était bien le collège. C'est bien sur le collège que tout le monde... Et ça existe, ce débat, je l'ai connu, vous l'avez connu, on le connaît tous, depuis le collège unique. Ce débat existe depuis la refondation de l'école. On pensait avoir une réponse, on pense avoir été entendu, mais non, parce que, et moi j'en suis un témoin vivant, quand vous êtes en train de discuter une loi au Parlement, il n'y a personne, ou presque personne, sauf si c'est un sujet... j'ai envie de dire police, justice ou renseignement, mais quand vous faites une loi de fond, eh bien, le temps des uns ne permet pas aux autres de venir écouter longuement un débat sur la refondation de l'école. Mais il faut relire ces débats. La réforme du collège, elle est dedans.
Alors, vous évoquiez il y a quelques instants l'apprentissage dans la fonction publique. C'est une question que vous posez, Laure Breton, de Libération.
Justement, vous disiez, il fallait qu'on s'attaque à la réforme du collège. On a eu le courage de le faire. L'apprentissage, c'est un des grands desseins du président de la République qui, finalement, multiplie beaucoup les annonces sur ce sujet. Il veut multiplier le nombre d'apprentis. Comment vous, qui remettez un rapport demain au Premier ministre, vous avez l'intention, ou comment vous arrivez à 10 000 apprentis dans la fonction publique, sachant qu'on part de très bas?
On part de très bas, puisqu'à l'État, il n'y en avait que 700. C'est-à-dire qu'on avait estimé que la fonction publique n'avait pas à faire de l'apprentissage, d'abord parce qu'un apprenti dans un ministère, ça comptait pour un temps plein. Donc déjà, il a suffi que j'enlève les apprentis du calcul des postes budgétaires pour que ça aille beaucoup mieux. Donc, repérer le métier, enlever l'apprentissage des ETP, enfin des équivalents temps plein, et puis motiver. Je pense qu'il faut motiver, parce que cette fonction publique, elle a tellement été abîmée par des commentaires qu'au fond, elle-même se retrouvait en retrait de l'excellence. On est en train de lui rendre ce qu'elle est. C'est-à-dire, elle est capable de tenir un pays, sa cohésion, porter les valeurs républicaines, mais elle est capable aussi de porter des vrais métiers. Et comme en même temps, moi j'essaye et je vais réussir, parce qu'il le faut, faire des passerelles entre les fonctions publiques, améliorer les parcours, l'apprentissage, ça veut dire que sur l'État, par exemple, je peux passer à 4000 apprentis. On a regardé avec l'ensemble de mes collègues si c'était possible. C'est possible, et on va le faire, parce qu'on va trouver avec les régions de France, et j'ai signé une convention le 12 mai avec les Région de France, le moyen d'avoir la formation qui va avec le stage. Juste une seconde, ce qui manque aux gosses qui veulent, aux jeunes, à nos jeunes qui veulent aller en apprentissage, souvent, c'est le lieu du stage. Donc nous allons offrir des lieux de stage de bonne qualité avec du tutorat.
En 3 secondes, une question très concrète. Pour devenir apprenti dans la fonction publique, il faut d'abord passer le concours d'entrée dans la fonction publique?
Non. L'apprentissage au sens vrai du terme.
Merci Marie-Lise Lebranchon, on arrive à la fin de la première partie de Mardi Politique. Une courte pause, les infos, et on se retrouve juste après.
Mardi Politique, en partenariat avec Libération et France 24. Florent Guignard.
C'est la seconde partie de Mardi Politique avec la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, Marie-Lise Lebranchu. Mardi Politique sur RFI avec France 24 et Libération, Roselyne Fèvre et Laure Breton. Alors Marie-Lise Lebranchu, On va en venir maintenant au jugement après la mort de Ziad et Bouna, ces deux adolescents à Clichy-sous-Bois en 2005. C'était près de Paris, on a entendu depuis hier, depuis la relaxe des deux policiers qui avaient été mis en cause. On a entendu beaucoup de commentaires, la droite notamment, se réjouit de la relaxe des policiers. On écoute le député UMP Christian Estrosi.
On ne peut pas le 11 janvier dernier défiler dans les rues de France pour la première fois en applaudissant les policiers, les forces de l'ordre, les forces de sécurité intérieure et en même temps les traîner dans la boue, surtout lorsqu'ils vont à la reconquête de territoires perdus de la République. Les familles n'ont qu'à éduquer leurs enfants et faire en sorte qu'ils ne soient pas des délinquants. Si l'État, de droite comme de gauche, fait son devoir pour que nous fassions disparaître ces cités de non-droit et qu'il y ait une éducation dans notre pays qui ne conduise pas à de tels comportements, on évitera ces drames.
Voilà le maire de Nice, Christian Estrosi, ce matin sur ITL. Alors on précise, hein, contrairement à ce qu'affirme Christian Estrosi, bien que Ziad et Bouna n'étaient absolument pas des délinquants. Comment vous réagissez, Marie-Lise Le Branchu, quand vous entendez ces propos?
Je vais réagir au propos parce que je ne réagis jamais à une décision de justice. Je n'oublie jamais que je suis une ancienne garde des Sceaux et je respecte toutes les décisions. Je crois que Christian Estrosi se trompe parce que à partir du moment où il y a une décision de justice, il n'a pas à la commenter avec une espèce de morale à la famille. Je veux dire, c'est pas ça qu'on demandait au procès. On demandait simplement au procès de savoir si oui ou non il y avait une responsabilité de fonctionnaires par rapport à la mort d'enfants. Point. Dire que c'est ça qu'on demandait. On ne demandait pas de jugement sur la famille. Et moi, je rends tous les jours hommage à la police, à la gendarmerie, aux militaires. Je passe beaucoup de temps à ça. Je pense beaucoup à ceux qui vivent dans grande tension, dans des quartiers dits difficiles ou alors dans des moments terribles de vie où ils sont les premiers présents. Ça, c'est une reconnaissance collective qu'on doit avoir. Il peut y avoir des erreurs. Il peut y en avoir. Je pense que ça peut exister dans tous les métiers. Malheureusement, dans ces métiers-là, ça peut provoquer des drames. Je ne sais pas, moi, je n'étais pas là, je n'ai pas suivi le procès, je ne veux pas le savoir. Mais je pense que M. Estrosi se trompe entre une forme de morale ou de moralisme et le respect des fonctionnaires policiers.
Laure Breton, de Libération.
De l'autre côté du spectre politique, ce matin, Jean-Pierre Mignard, l'avocat des familles de Ziad et Bouna, a parlé d'un apartheid judiciaire. Justement, d'une justice qui n'était pas rendue pareille quand il s'agissait de fonctionnaires de police blancs et d'enfants d'origine, de familles d'origine étrangère.
Moi, je ne peux pas dire ça, parce que j'ai confiance dans la justice de mon pays. Je sais aussi que les magistrats sont des êtres humains. J'ai toujours dit qu'il faut faire extrêmement attention à réinculquer tous les matins le fait qu'on est magistrat et magistrat seulement. Mais Jean-Pierre Mignard est un avocat. Et je pense que l'avocat a le droit à tout commentaire. Je ne suis pas certaine que celui-là soit le meilleur que j'ai entendu, mais...
En l'occurrence, il faisait référence à l'apartheid social prononcé par Manuel Valls il y a quelques semaines.
Je pense que l'apartheid social... c'est autre chose, pardonnez-moi. L'apartheid social, c'est le fait que se sont créés des ghettos de riches qui ont exclu, petit à petit, par la pression foncière, la pression immobilière, ceux qui avaient un peu moins, puis ceux qui avaient encore moins, qui ont été exclus. Et dans la métropole du Grand Paris, on passe de l'hyper-richesse à l'hyper-pauvreté. Donc il y a effectivement cette volonté d'exclure. Je pense que là, le mot n'était peut-être pas ad hoc, mais c'est un commentaire d'avocat et d'avocat qui, lui, a vécu avec les familles, ce qui n'est pas mon cas.
Alors, pour revenir aux propos de Christian Estrosi, qu'est-ce que ça veut dire de l'état de la droite aujourd'hui et de sa façon d'appréhender bien ces questions de banlieue?
Je pense que la droite a cette tentation, peut-être... parce qu'elle regarde les chiffres du Front National, mais en tout cas, elle l'a depuis longtemps. La tentation...
La gauche, elle ne regarde pas les chiffres du Front National?
Si, avec une très grande inquiétude sur la fragmentation de la société. Je viens parler d'apartheid, je crois que notre société est fragmentée, qu'on a une crise politique, démocratique et sociale, et peut-être même démographique. Mais je pense qu'il y a cette espèce de volonté d'éviter des votes au Front National en prenant des mots, des attitudes... qui ressemble à celle des extrêmes et de l'extrême droite en partie, de l'extrême droite dans le cas particulier. Et je pense qu'il y a une espèce de moralisme, de rejet de l'autre, de choix de cliver, de choix d'exclusion. On a souvent parlé de communautarisme, j'ai souvent trouvé que la droite et son ancien président avaient tendance à communautariser un certain nombre de questions. Je pense que tout ça est très dangereux et participe justement au repli sur soi, à l'individualisme, au rejet de l'autre, à la peur. Et quand on manie les peurs, il faut se méfier. Et je pense que les républicains que nous sommes doivent se méfier de ceux qui manient les peurs, parce que ça peut conduire justement à la négation des valeurs de la République.
Alors précisément, l'UMP compte s'appeler les Républicains, les militants, les adhérents UMP vont être consultés sur le changement de nom. Est-ce que ce que vous nous dites là, c'est que l'UMP ne peut pas s'appeler les Républicains ?
Je pense que on pourrait s'appeler les Républicains de droite, les Républicains de gauche, je sais pas, on pourrait faire quelque chose comme ça pour arrêter ce débat qui n'a pas de sens sinon un sens un peu difficile à porter, en tout cas pour moi, sans doute pour d'autres. Je pense que la République, elle sait affirmer des valeurs. La fonction publique d'ailleurs les porte. Et nos élus doivent être porteurs des valeurs républicaines. Et je pense qu'à chaque fois qu'on clive, qu'on exclut, qu'on fragmente, qu'on crée la peur, qu'on repousse, eh bien on oublie que la République, justement, elle est incluante et que son rôle, c'est non pas le laxisme d'accepter de la délinquance, comme j'ai entendu il y a peu de jours. Son rôle, c'est faire respecter l'état de droit, mais avec des valeurs républicaines et qui sont données la chance à chacun, par exemple. Donc moi, j'ai envie de dire à M. Estrosi, attention.
À droite comme à gauche, on dit, on analyse de plus en plus, on dit que la prochaine présidentielle, elle va se faire beaucoup moins sur les questions économiques, l'inversion attendue de la courbe du chômage, mais bien davantage sur ce qu'on appelle les questions identitaires. Est-ce que d'abord, c'est une analyse que vous, Maryse Lebranchu, vous partagez ?
Je ne dis pas les questions identitaires, je dis les questions de société, mais d'équilibre de la société. Moi, j'ai déposé une contribution au moment de notre congrès, par exemple.
On va en parler tout à l'heure.
J'ai tenu à parler de fragmentation de la société d'une part, c'est-à-dire c'est quoi l'analyse de la fragmentation de la société, c'est quoi aussi la laïcité dans la République, c'est quoi une laïcité qu'on pourrait porter comme un modèle au niveau européen. Je crois qu'il y a on a parlé de tentation du repli sur soi, je crois que l'individualisme est là, c'est pas une tentation, l'individualisme est là, et comment nous on parle à nouveau de société.
C'est la vraie question qui est posée à la gauche aujourd'hui.
Je pense que c'est une question qu'on doit porter encore. Moi, j'ai pas toutes les réponses. J'essaye d'y travailler au mieux, mais je pense qu'effectivement, il faut pas oublier les questions économiques et le chômage, parce que le chômage est déstructurant, rend des personnes dans des situations d'indignité qui peuvent aussi les conduire à un repli sur soi qu'on comprendrait, même si on ne veut pas naturellement le dire comme étant une évidence. Mais je crois que la fragmentation de la société est telle que tout républicain doit faire attention, parce qu'une société fragmentée, c'est une société qui peut imploser, exploser, je ne sais pas quel mot prendre, mais c'est une société dans laquelle il y a danger. Et moi, je pense, j'en appelle même souvent à du recul, à de la sérénité par rapport à quelque chose qui est, à mon avis, suffisamment grave pour qu'on évite des sorties comme celles que vous avez utilisées tout à l'heure pour ouvrir le débat.
Rosine Fèvre, de France 24.
Est-ce que le Front National, dans le fond, ne prospère pas sur les questions que les autres partis républicains ne se sont pas posées ? Je dis bien le mot « question » parce que les réponses, le FN, bien sûr, n'y répond pas.
On se souvient de la phrase de Laurent Fabius, bien connue, hein, des bonnes questions et les mauvaises réponses. Voilà. Je pense que la question de l'individualisme, du repli sur soi, elle existe dans la société. Elle est exploitée par le Front National et elle est même, je dirais, nourrie par le Front National. Donc, ils ne sont pas simplement en train de se poser des questions, c'est-à-dire qu'ils en jouent du communautarisme, on utilise la laïcité à l'envers. La laïcité, c'est quand même une merveille qu'on connaît, qu'on pourrait décrire. Le Front National en fait un courroie d'islamophobie. Voilà, c'est-à-dire qu'ils utilisent ce mot pour brocarder une partie de la société qu'ils estiment à rejeter. Donc, sur les, c'est pas, ils ne sont plus sur les bonnes questions. Ils sont sur l'exploitation des difficultés de la société et sur la création aussi, non seulement du déclinisme, on en a souvent parlé, mais aussi de rejet de l'autre, en disant au fond, si vous n'êtes pas bien dans votre société, c'est pas de votre faute à vous, citoyens de France ou en France, ce qui n'est pas la même chose, mais c'est à cause des autres qui nous envahissent et nous envahissent encore. Donc c'est quand même ça.
Mais quand François Hollande fait finalement le pari d'une France ouverte, d'une France qui gagne, qui tire son épingle du jeu dans la mondialisation, est-ce que d'abord ce discours, il est audible dans une France où le Front National fait 25%, et deuxièmement, est-ce que c'est crédible?
Moi, je pense que François Hollande ne parle pas assez de ce qu'il fait au niveau européen, y compris à partir de ce qu'est la France. Il ne parle pas assez de ce qu'il fait au niveau mondial, y compris à partir de ce qu'est la France. Moi, quand je vais en Albanie, en RDC, au Congo, en Asie, ailleurs, on me demande quelle action publique on peut organiser, quelle fonction publique, quelle formation, quelle valeur, quelle décentralisation, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour être un modèle social, quel équilibre, etc., etc. Nous sommes entendus dans le monde et nous ne parlons plus de nous en France comme un modèle. Et nous parlons toujours de nos difficultés, nous en avons, j'ai parlé de la fragmentation de la société ou du repli sur soi, c'est évident, mais est-ce que nous n'avons pas dans ces valeurs républicaines...
Ailleurs, attention, aussi dans d'autres, qui se voient aussi ailleurs dans d'autres pays européens,
bien évidemment.
Ce repli sur soi...
La crise toute crise économique engendre un repli, on l'a vu, y compris dans notre histoire. Mais même si c'est ailleurs, est-ce que nous avons mieux tenu en cohésion sociale que d'autres? Certainement. Est-ce que le fait de garder une retraite, des assédiques, une sécurité sociale, l'accès aux soins permet de mieux résister? Je le crois. Est-ce qu'on peut parler comme ça à d'autres pays en Europe? Oui. Est-ce qu'on pourrait progresser ensemble? Oui. Je me souviens de discussions avec des Roumains il y a 6 mois maintenant, ou presque. On me disait, au fond, il faudrait qu'on partage ce qui fait société. Ce qui fait une société solidaire, mais aussi une société qui produit, parce qu'au fond, l'école, l'enseignement supérieur, la recherche publique, tout ça fait de nous un pays qui résiste bien à la crise.
Vous êtes en train de dire que la France fait rêver à l'extérieur, mais ne se fait plus rêver elle-même.
On ne parle plus assez de nous tels que nous sommes. Et j'ai souvent envie de dire, moi je suis fière d'être de ce pays-là. Et j'ai envie, moi, de marcher dans la rue, de faire la politique en marchant, en disant, au fond, qu'est-ce que vous voulez qu'on parle de sécurité sociale, ça vaut le coup, non? Parce qu'aux États-Unis, il faut que l'entreprise achète quasiment vos places à l'hôpital. C'est pas une bonne solution, vous voyez. Il y a des tas de choses sur lesquelles on pourrait parler à nouveau. Or, qu'est-ce qui se passe dans le commentaire? On vous dit, dépenses publiques, 57% du PIB. Ouh là là! Panique! Inquiétude! Non! Est-ce que c'est trop, on est au maximum? Oui. Est-ce qu'il faut diminuer les dettes? Oui. Est-ce qu'il faut rejeter le modèle? Non. Et attention peut-être à la façon dont on le commente.
Alors Jean Pisani-Ferry, dans son rapport sur la France en 10 ans, avait dit que la France ne savait pas faire des choix. Il y a eu une réforme territoriale, l'objectif c'était de faire des économies, mais on nous a jamais expliqué où et comment et combien. Il y avait la RGPP qui était faite par la droite, c'est-à-dire réexaminer les fonctions de l'État, réviser la fonction publique. C'est devenu la MAP pour les socialistes, moderniser l'action publique, adieu la RGPP. On a donné ça, c'était dans votre giron ministériel, c'est devenu dans le giron de Thierry Mandon, un autre ministre. Mais c'est passé où la modernisation de l'État?
D'abord, la modernisation de l'État, c'était la modernisation de l'action publique et la réforme de l'État. Il y a plusieurs choses, il y a tellement de choses dans votre question que j'ai le droit à une heure.
Ce sera juste une minute, Marie-Lise Branchy.
Voilà, on synthétise, comme au PS, on fait la synthèse.
Moi, je pense qu'il faut parler d'action publique et d'action publique modernisée. On simplifie, on utilise tous les nouveaux moyens, on mutualise les moyens dans les collectivités locales, on fait attention à ce qu'il n'y ait pas de doublon entre l'État et les collectivités locales, c'est ce que je vais défendre la semaine prochaine, on fait attention à ce qu'il n'y ait pas de doublon entre la région, le département, les intercos, on fait des métropoles quand on a besoin de moteurs, en particulier pour l'enseignement supérieur, la recherche et les start-up, disons, faisant court, parce qu'on doit faire court, mais on est moderne au sens où on part de ce que nous sommes pour faire monter d'une marche le tout en termes d'action publique. C'est comment l'entreprise aujourd'hui va trouver un seul guichet, va se développer, va trouver le terrain qui va bien, va trouver les gens formés, va pouvoir exporter, internationaliser ses produits, etc. Il y a des tas quand même de propositions dans cette loi. On n'a pas le temps, mais qui valent le coup d'être décortiqués.
Alors, on n'a pas de temps, on va aller assez vite, on va en venir rapidement aux questions d'immigration, la question des quotas de migrants en Europe au cœur de l'actualité politique. Tout le monde en France s'oppose à ces quotas, à droite Nicolas Sarkozy et puis à gauche François Hollande.
Il n'est pas question qu'il y ait des quotas d'immigrants. Parce que nous avons des règles qui est le contrôle de nos frontières, et des politiques de maîtrise de l'immigration. Il ne peut pas y avoir de quotas pour ces migrants. Il y a la question ensuite des réfugiés qui relèvent du droit d'asile. Or, le droit d'asile n'obéit pas à un quota. Lorsqu'il y a ces réfugiés, lorsqu'ils vont toujours dans les mêmes pays, eh bien, nous devons faire en sorte que d'autres pays puissent également prendre leur part. C'est ce qu'on appelle la répartition.
Voilà, François Hollande aujourd'hui à Berlin. Question de Laure Breton de Libération.
Oui, on peine à comprendre. En fait, finalement, il y a une polémique dans la polémique. Je mets à part ce que la droite pense de cette réforme européenne. Personne à la Commission européenne, ni le président Juncker, ni le commissaire Avramopoulos, n'a jamais parlé de quotas. Alors comment ça se fait que ça s'est enflammé en France et que le débat public s'est organisé autour de ce mot qui n'a jamais été prononcé et qui parle de meilleure répartition, effectivement.
Ça a été mal traduit. Eh bien, on était obligé de revenir sur le mot parce que, en fait, le match, effectivement, s'est fait sur le mot quota. Mm-hmm. En disant, voilà, pourquoi? Parce que, rappelez-vous, discrimination positive, imitation de l'Amérique du Nord et en particulier du Canada sur des quotas en fonction des besoins, c'est quelque chose qui a été très porté par la droite française lorsqu'elle était au pouvoir il y a quelques années. Du coup, le commentaire a porté là-dessus. Or, en fait, il s'agit de quoi? Il s'agit de constater que 75% de ces réfugiés politiques, c'est-à-dire qui ont des raisons d'être là, qui ne sont pas des réfugiés économiques, enfin des immigrants économiques, sont répartis sur 5 pays. Et il y a un moment donné où on dit, c'est pas normal, il faut que l'Europe soit l'Europe jusqu'au bout et sur tous les sujets, y compris le fait que, puisqu'il y a des gens qui sont réfugiés politiques reconnus à la fois en France, mais dans d'autres pays et en Europe, alors faisons un effort pour les accueillir sur différents pays et mieux.
Mais sans parler de quotas, pour pouvoir mieux répartir, il faut qu'il y ait des chiffres. Il faut qu'il y ait une estimation chiffrée du nombre de d'immigrés ou de demandeurs d'asile qui sont reçus par la France ou par les quatre autres pays.
Mais est-ce que ça vous choque de dire, je n'ai plus le chiffre et je m'en excuse, mais du total qu'on a approché ces dernières...
62 000.
Voilà.
L'année dernière.
Est-ce que ça peut nous choquer de dire... Ce serait mieux qu'un certain nombre aille dans un pays du Nord, dans d'autres pays, plutôt que sur les 5 pays, se concentrer, se rassembler, parfois se communautariser, en attendant de pouvoir retourner dans leur pays. Parce que nous sommes dans le cas de réfugiés politiques. Ils retourneront sans doute, je l'espère pour eux, parce que c'est souvent leur souhait profond, on oublie de le dire. Ils retourneront dans leur pays quand, malheureusement, aujourd'hui, ils ne peuvent pas y retourner, pour des raisons de guerre. Eh bien, ces gens-là, en attendant, ont le droit de travailler, d'être logé. Est-ce qu'il est normal que l'Europe partage le soutien humanitaire, humain à ces personnes? Je le pense. On peut faire effort. Et je pense que est-ce qu'on est capable après de dire il faudra parler de chiffres, oui, il faudra parler de chiffres, peut-être. Mais attention à ne pas en faire un débat difficile. Pour ce qui est quand même un geste humanitaire profond, quand les gens se font tuer,
merci.
Est-ce qu'on les accueille?
Merci Marie-Lise Lebranchu, on arrive à la fin de Mardi Politique. Marie-Lise Lebranchu, ministre de la décentralisation et de la fonction publique. Très bonne soirée à tous.